Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Alors, l'année dernière, vous avez pu l'entendre quotidiennement sur les ondes de Cube Radio. Makakoto, il est acteur, il est auteur, il est animateur et aussi ex-ministre de la Culture et des Communications au Parti québécois. Et je voulais lui parler de ces questions qui sont soulevées quotidiennement ces jours-ci, à savoir, est-ce qu'on est plus équipe François Legault qui dit que le racisme systémique n'existe pas ici, ou équipe Trudeau qui dit qu'au contraire, le racisme systémique est non seulement existant, mais virulent au Canada. Donc, Maka Koto est au bout de la ligne. Bonjour Maka, comment vas-tu?
Bonjour Sophie, ça va bien, toi?
Moi, malgré les circonstances? Oui, malgré les circonstances, moi ça va bien. Quand on parle de racisme systémique, Maka, toi dont la peau est noire, est-ce que et qui est marié avec une femme blanche, Caroline Saint-Hilaire, qu'on salue, est-ce que tu sens que au Québec cette relation, par exemple, avec une femme dont la couleur de peau n'est pas la même que la tienne, est-ce que ça pose problème au Québec des mariages interraciaux?
Ça pose probablement problème chez des gens qui sont encore entre guillemets dans des références qui ont marqué le temps où la domination, voire la soumission des Noirs a été, mettons, une chose normale, entre guillemets, dans la vie. Il ne faut pas perdre de vue le fait que ce que nous vivons aujourd'hui relève de siècles et de siècles passés, de générations passées. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu l'histoire de l'esclavage, il y a eu l'histoire de la colonisation qui ont fait des victimes et en Afrique et aux États-Unis. Le problème de racisme systémique, voire structurel, dont parle l'ONU depuis hier, vient de là. Aux États-Unis, on n'a pas réglé. Les États-Unis n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes, avec leur propre histoire.
C'est bien dit.
Ce qui fait que des phénomènes comme ceux qu'on vit actuellement, quand ils se déclenchent, ils embrasent la planète entière. On a vu que c'est pas seulement au Québec qu'il y a eu des manifs, il y a eu en Europe, un peu partout, même en Afrique. Alors, quand on parle de racisme systémique aux États-Unis, il faut remettre les choses en contexte. Ça part d'une histoire d'esclavage qui est toujours pas réglée, d'une histoire de réparation demandée, exigée depuis toujours par des Noirs, par des Blancs et autres, pour une simple question principe de justice historique. Ça part de l'histoire de la ségrégation, ça part de l'histoire du Ku Klux Klan. Il faut pas oublier que dans les années 30, on pendait encore des
Absolument.
Noirs comme des... On parle d'ailleurs ces jours-ci du poème de l'enseignant juif Abel Méropol. Il avait écrit à l'époque, en 37 de mémoire, Strange Fruit,
oui.
Fruit étrange.
Absolument.
Que Billy Holiday a mis en chanson. Voilà, a mis en chanson. Et cette chanson, si les gens peuvent la retrouver, elle doit être en ligne, elle nous parle d'il y a presque 100 ans. Et ce qu'on disait il y a 100 ans, on le vit encore aujourd'hui. Ça veut dire, conclusion, que ce problème noir-blanc relativement à l'héritage historique n'a pas été réglé. Et que, étant donné que les États-Unis sont un modèle de référence, un modèle d'identification pour l'Occident, pour le monde libre, quand ça éclate là-bas, ben ça rejaillit partout sur le monde libre.
Oui, mais c'est très important, toutes les remises en contexte et les remises en contexte historique que tu fais, Maka. La question qui se pose ici au Québec, c'est beaucoup de gens. Il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui disent il ne faut pas apposer au Québec la grille d'analyse des États-Unis puisque la situation économique, la situation historique n'est pas du tout la même. Puis il y a d'autres gens qui disent ben vous, si vous faites ça, vous vous mettez la tête dans le sable comme une autruche et vous faites semblant de pas voir que oui au Québec il y a eu des esclaves, que oui au Québec il y a eu de la discrimination et qu'il y en a encore aujourd'hui. Donc toi, je veux savoir, tu es de quelle école? Est-ce qu'on peut appliquer cette grille-là d'analyse au Québec ou pas? Est-ce qu'elle est pertinente ou pas au Québec?
Moi, je dirais que je suis de l'école des faits. et comme tu viens justement de le rappeler, il y a du racisme, il y en a eu au Québec, au Canada. Il y a de la discrimination, et il y en aura probablement encore tant qu'il y aura des poches des problèmes d'éducation, des poches d'ignorance, quand il y aura des relents de suprématisme blanc en l'occurrence, parce que si aujourd'hui aux États-Unis on vit encore ces problèmes de tension, de haine et de violence entre blancs et noirs, c'est le fait originel du suprématisme blanc que Tocqueville, d'ailleurs, dans son brûlot sur la démocratie, disait au dernier chapitre, il en parlait au dernier chapitre, il a dit, si ça s'embrase, je le dis en résumé, si ça s'embrase un jour aux États-Unis d'Amérique, ce sera du fait du suprématisme blanc qui aura perdurer et on le vit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut transposer la chose au Québec? Les choses sont plus subtiles au Québec. On sait, par exemple, je prends cet exemple-là, on est dans les médias, t'es à la radio, il y a la télévision, il y a le cinéma, qui sont des véhicules d'imagerie et de modèles qui nourrissent l'inconscient collectif. Alors, quand on grandit, quand on a des enfants, qui grandissent dans un environnement où à la télévision, au cinéma, il n'y a pas de modèle de référence auquel les gens peuvent, notamment les minorités en général, les Noirs en particulier, peuvent s'identifier positivement. Il y a un problème. Ça inscrit dans l'esprit ou dans la psyché des Noirs le fait qu'ils ne sont pas inclus dans,
d'accord.
Mais, dans l'image de cette société.
Maca, quand on regarde...
Je termine là-dessus pour répondre à la question. Et ça insuffle dans l'inconscient collectif caucasien le fait que, oui, c'est des gens qui ne sont pas nous, qui ne sont pas comme nous et qu'on peut marginaliser. Donc, il y a comme un jardin de culture de la discrimination. C'est ce qu'on peut appeler discrimination structurelle ou systémique, mais racisme systémique ou structurel. Au Québec, je peux pas aller jusque-là. Je peux parler de discrimination systémique. Je viens de donner un exemple. Je peux m'étaler là-dessus si on a le temps.
Oui, ben je veux juste te faire réagir au fait que depuis des années maintenant, une des personnalités les plus aimées, les plus appréciées, les plus rémunérées, les plus visibles au Québec, c'est Normand Brathwaite.
Nomme-en 10 autres.
Non mais oui.
En comparaison avec entre guillemets les modèles caucasiens véhiculés à travers les médias. Nomme-en 10 autres venant de la diversité.
Ben, Philippe Femiou, Rebecca McConnon, je peux t'en nommer.
Alors,
ben, je veux dire, ça. Toi, tu as joué dans des films.
Oui, non, mais je veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Si on fait un box pop sur la rue, en donnant ces noms-là, il faut, et à titre comparatif avec les modèles caucasiens qui sont véhiculés à travers les médias, on peut faire très facilement le bilan de ce que les gens intègre dans leur psyché. On peut voir jusqu'à quel point ils considèrent que c'est des gens qui font partie du nous. Je ne suis pas en train de juger la société québécoise. Ce que je fais ici, c'est mettre en garde relativement au fait que, consciemment ou inconsciemment, on peut tomber dans le piège de la marginalisation, de la discrimination et du racisme, et puis le réaliser seulement une, deux générations plus tard. C'est important que le terrain, le jardin sur lequel nous vivons, la maison dans laquelle nous vivons, soit bien consciente du fait que le nous, ça se bâtit, ça se construit et sur toutes les dans toutes les sphères de l'activité humaine.
Ouais. Mais Maca, tu es en train de me dire que si tu penses que si on fait un sondage dans la rue aujourd'hui au coin de Sainte-Catherine et Berry et que je parle aux gens de Normand Brathwaite, les gens vont pas considérer que Normand Brathwaite c'est un Québécois comme un autre, qu'ils considéreront pas qu'ils font partie d'un nous collectif.
Non, je parle d'une dizaine de références issues de la diversité. Normand Brathwaite, c'est sûr, il a fait son chemin, comme Daniela Ferrière, ils ont fait leur chemin, mais il ne faut pas que ce soit des arbres qui cassent la forêt. Il est important de mettre en perspective la diversité pour que le sentiment du nous soit partagé de part et d'autre. Il y a des tensions, on en parle très peu. On en parle très peu. L'école fait un effort là-dessus. Mm-hmm. Je vois, par exemple, à l'époque où mon fils aîné allait à Face, il y avait cet effort de cultiver, d'amener les jeunes à se considérer au-delà de leurs différences. Et justement, c'est par le biais du théâtre, par exemple, qu'ils apprenaient l'histoire de l'esclavage. C'est par le biais de la poésie qu'ils apprenaient. Des chansons comme Strange Fruit. Moi, j'ai eu des discussions avec mon... Il a aujourd'hui 27 ans, mais il avait 14 ans quand on en a parlé de Strange Fruit. Hein? C'est important de ramener... Quand, par exemple, on parle des Acadiens, on parle des Québécois qui ont été colonisés, entre guillemets,
ouais,
par les Anglais... Parfois, on comprend pas, la majorité comprend pas pourquoi des gens issus de la diversité ou de l'immigration n'ont pas la même sensibilité relativement aux autochtones québécois, mm-hmm, en l'occurrence. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Et donc, il faut la partager, cette histoire, par tous les moyens possibles, par l'école, par la télévision, par le cinéma, pour que il y ait, disons, une pacification des liens entre les Blancs et les Noirs, en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il en est question.
Oui. Alors, je veux juste te citer quelque chose. Cette année, c'est vraiment un hasard. Je suis sûre que ça n'a évidemment rien à voir avec la situation. Le porte-parole de la fête nationale, ça a été décidé il y a plusieurs semaines, c'est le comédien Didier Lucien. Et nous, en début de semaine, avec Hugo Veilleux, le recherchiste, on a contacté Didier Lucien parce qu'on voulait faire une entrevue avec lui où on aurait parlé, évidemment, de la fête nationale. Mais on aurait aussi parlé de la situation aux États-Unis et ça a été vraiment une fin de non-recevoir. Là. C'est vraiment jamais, non, il est hors de question qu'on parle de ça. Et là, il y a toute une controverse et même les gens de la fête nationale sont obligés de viennent tout juste là d'émettre un tweet parce qu'ils avaient publié un avis hier en disant, écoutez, Didier Lucien va donner des entrevues pour parler de la fête nationale, mais il refuse qu'on lui pose des questions sur la situation actuelle aux États-Unis. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Parce que je me dis, c'est au Québec, la fête nationale, la personne qu'on choisit comme porte-parole, c'est quelqu'un qui est noir et qui justement aurait pu nous rassembler autour de cette question-là. Alors, il refuse. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, comme ancien ministre de la Culture?
Je peux comprendre sa posture parce que depuis 2000, juste pour rappeler, depuis l'an 2000, il y a eu 14 émeutes aux États-Unis, et des émeutes qui ont eu des impacts juste ici au Québec. 14 émeutes parce que des policiers qui avaient maltraité, humilié des Noirs n'avaient pas été condamnés. 14. Et depuis ce temps-là, à chaque émeute, il y a des manifs, il y a des gens qui prennent la parole publique pour justement... faire de la pédagogie, entre autres, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et à terme, comme il n'y a rien qui bouge, ça peut fatiguer le monde. Il y en a qui sont fatigués. Michael Jordan a, pour la première fois de sa vie, posé un geste politique, je dirais, avec un tweet où, justement, il termine par « on en a assez ». Les gens sont fatigués. Prendre la parole, pour revenir à Didier, prendre la parole publique aujourd'hui dans ce contexte, moi, j'ai géré ma colère, parce que à chaque émeute, j'en ai cité 14, il y avait de la colère en moi, mais je ne parle pas publiquement parce que je suis sous l'effet de la colère. Il est déconseillé de parler sous l'effet de la colère. Il est possible qu'il soit encore habité par la colère. Il est possible qu'ils prennent parole publique et dérapent. Donc, sagesse oblige. Je pense que je ne lui ai pas parlé. Je ne sais pas ce qui a motivé. Mais moi, je pense qu'à l'instar de beaucoup de gens d'ascendance africaine, il y a beaucoup de colère.
Je comprends. Mais on l'entend, cette colère-là.
Ouais. Voilà. Et amener les gens à parler publiquement de cette question alors qu'ils n'ont pas encore le recul. Moi, j'ai milité là-dessus depuis l'âge de 22 ans. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de ce qui est arrivé aux États-Unis récemment. Parce que, justement, je place cet événement sur la ligne du temps. Et cette ligne du temps nous amène de l'esclavage jusqu'à la discrimination et au racisme haineux d'aujourd'hui.
Ouais.
Inhumain même, je dirais.
Maka, on va se laisser. Merci beaucoup d'avoir choisi de prendre parole malgré cette colère. Et c'est très apprécié. Puis merci pour ta leçon d'histoire qui est très appréciée. Puis on va se quitter justement avec cette chanson de Billie Holiday dont tu nous parlais tout à l'heure, Strange Fruit.
Merci Sophie.
Fruit. Blood on the leaves. And blood at the root. Black bodies swinging in the sun.